Bonjour à tous, je suis vraiment désolée de cette série de petits retards qui, voilà, devrait prendre fin. Merci de votre patience. Il va à nouveau être question dans cette intervention de la BPI et à nouveau d'une enquête qui a été menée au tout début du mois de novembre 2015. Mais cette fois-ci, la parole des usagers va être appréhendée de biais, en quelque sorte, à travers celle des bibliothécaires. Et cette intervention va justement essayer d'expliquer pourquoi est-ce que ce point de vue nous a paru intéressant et quel type de résultats on peut obtenir avec cette méthode. Avant de commencer, quelques mots de contextualisation. L'expérimentation dont je vais parler fait suite à une demande de la direction de la BPI qui a souhaité qu'une semaine test de l'accueil puisse être menée en même temps que d'autres enquêtes. Christophe a présenté l'enquête de fréquentation qui s'est déroulée à la même période aussi sur une même quinzaine de tests. Une semaine de consultation des collections a aussi été menée. Donc une période riche de relevés d'indicateurs et l'expérimentation dont je vais vous parler aujourd'hui s'inscrit dans ce contexte-là de production de données et avait pour objectif de mettre à jour des indicateurs chiffrés. Il s'agissait, quand on parle de semaine test de l'accueil, certains d'entre vous en mènent, d'analyser les interactions en service public. Alors vous le savez sans doute, à la BPI, le service public est posté. Il correspond à un temps, en général une moyenne de 3h30 par bibliothécaire, et à un lieu. Le service public se fait dans le cadre de bureaux de référence dont vous voyez un spécimen sur ce visuel. Alors, qui s'intéresse et qui cherche à analyser les interactions en service public se trouve confronté finalement à un choix de poste d'observation. Soit je me place du point de vue de l'usager, et je vais relever les questions qu'il pose. Soit je me place du point de vue du bibliothécaire et je vais m'intéresser aux réponses qu'il donne. Le relevé des questions posées par les usagers. Oups. Je vous en donne un petit exemple. Voilà. Peut prendre une forme relativement simple. Avec même une sorte d'horodatage, comme on le voit sur le visuel de gauche. Ce que l'on peut constater, alors c'est pour ça que j'ai mis des exemples de listes qui sont séparés par 20 ans d'écart, c'est que finalement, très souvent, se relever des questions finalement thématise la question de l'usager, c'est-à-dire qu'on extrait des sujets documentaires de l'ensemble de la verbalisation de la question de l'usager, ce qui permet de disposer de listes de sujets documentaires qui, dans le temps, peuvent être comparés. On peut identifier des constantes et des variantes. Ce type de relevé, comme vous pouvez le constater, présente un certain nombre d'avantages. Le premier, c'est qu'on se place assez près de l'expression des usagers, ce qui nous permet donc d'avoir cette liste des centres d'intérêt. Il repose sur un certain nombre d'hypothèses assez fortes. La première hypothèse, c'est que l'usager est capable d'avoir une expression claire et nette de ce qu'il veut. D'une certaine façon, on squeeze un petit peu la qualité du dialogue qui peut quelquefois en service public faire émerger véritablement une question qu'on soit à même de traiter. Très, très souvent, ces listes de questions posées, comme je les ai montrées, sont catégorisées, soit a posteriori, une fois qu'on a fait ce relevé qui peut être un petit peu compliqué et fastidieux. Mais la plupart du temps, dans la plupart des cas, la catégorisation des questions posées par les usagers se fait a priori. C'est-à-dire que l'on dispose, on met à l'attention des bibliothécaires postés en service public une grille qui précode, qui anticipe le type de question qui va être posée. Et le bibliothécaire est invité à indiquer sous forme de bâton le nombre de fois où il peut rattacher la question posée à une grande catégorie qui est prélistée. C'est une méthode que nous avons adoptée à la BPI à la fois en 2003 et en 2010. C'est une méthode aussi qui est utilisée par d'autres collègues, notamment à la bibliothèque de Sciences Po, à la bibliothèque universitaire de Paris 8 et à l'ancienne médiathèque La Cité des Sciences, pour les quelques exemples que je connais. D'autres types de grilles prédéterminées en quelque sorte peuvent être établies, peuvent être proposées pour coder les questions des usagers. Comme vous le savez, Bertrand Cameron, j'ai été très intéressée, notamment par la médiation des connaissances. Et sur son blog, il propose une typologie qu'on pourrait appeler cognitive, dans le sens où elle cherche à attraper la formulation, finalement, du besoin d'information qu'a l'usager. Donc la demande peut se donner à voir sous une forme de liste de références. Et dans ces cas-là, Bertrand Cameron, je propose de parler de demande déterminée, ou au contraire comme l'expression d'un simple sujet. Elle sera, dit-il, spéculative ou encore butineuse, donc avec des modalités de formulation qui sont peut-être un petit peu plus évasives, dit-il. Enfin, mais il y en aurait d'autres, c'est juste pour lister quelques exemples possibles de catégorisation. On peut, a posteriori ou a priori, identifier une grille de catégorisation des questions posées sur une base qu'on pourrait appeler sociologique, dans le sens où elle essaye de mesurer le poids des contraintes de l'organisation institutionnelle sur ce que peut sur la façon dont l'usager peut formuler sa question. Ici, je pense en particulier à l'ouvrage maintenant ancien, mais qui reste vraiment d'actualité, Publics à l'œuvre, où Jean-François Barbier-Bouvet et Martine Poulain ont distingué ce qu'ils proposent d'appeler la médiation obligatoire. L'usager est obligé de passer par le service d'un bibliothécaire pour accéder, par exemple, à un livre, quand une bibliothèque ne propose pas de libre accès, ou à Internet, quand, comme c'est le cas à la BPI, pour accéder à une session, il a besoin d'un ticket de réservation. Dans ces cas-là, la médiation est obligatoire pour qui veut accéder à un service. Ce type de médiation obligatoire s'oppose à ce que Jean-François Barbier-Bouvet appelle la médiation facultative, auquel il consacre un chapitre dans Publics à l'œuvre, et qu'il définit comme étant ce recours au bibliothécaire qui se fait sans obligation ni sanction. Cette médiation facultative peut elle-même se décliner en deux grands types, finalement, de médiation facultative, selon la façon dont l'usager fait tenir un rôle au bibliothécaire. Si l'usager a tendance à voir le bibliothécaire comme un oracle, on parlera de médiation facultative de principe, c'est-à-dire qu'avant même de commencer sa propre introspection, l'usager s'adresse au bibliothécaire. Si l'usager a tendance plutôt à considérer le bibliothécaire comme un pompier, on pourra parler de médiation facultative de secours qui intervient après une première démarche personnelle. Alors, comme vous pouvez le constater, le grand intérêt de ces types de catégorisation, a priori ou a posteriori, c'est qu'elles permettent de produire assez facilement des données quantitatives. Examinons maintenant l'autre point de vue qui s'offre à nous lorsqu'on analyse des interactions, qui, cette fois-ci, nous place du point de vue des bibliothécaires et des réponses qui sont données. Cette fois-ci, on essaie de se placer au plus près de la situation de communication. On essaie finalement de mesurer le travail d'adaptation que le bibliothécaire fait par rapport à l'usager. On mesure aussi l'effort de l'usager pour reformuler dans le dispositif bibliothèque son besoin d'information. En gros, on essaye de mesurer l'effort conjoint des deux acteurs. Et on suppose, parce que précisément on tient compte de la personnalité des deux interlocuteurs, qu'une même question ne fait pas toujours l'objet d'une même réponse. Et par ailleurs, on fait l'hypothèse qu'on va être capable de décrire cette situation de communication. C'est pourquoi la plupart du temps, ce point de vue fait l'objet de méthodes qui sont beaucoup plus qualitatives. Ce point de vue peut être travaillé à travers des entretiens d'analyse de la pratique, dit aussi débriefing de service public. On peut aussi travailler avec ce type de méthode avec des entretiens qualitatifs longs, de type semi-directif, comme le travail qu'avait fait et qui reste précurseur. Il y a très peu de travaux qui développe ce type de démarche qualitative. Vous vous souvenez peut-être qu'Anne-Marie Bertrand avait commencé à travailler cette question sur une base qualitative avec cet ouvrage, ce compte-rendu d'enquête bibliothécaire face au public. Il y avait à l'époque 4 terrains, la BPI, mais aussi 3 autres médiathèques publiques. Et son point de départ pouvait être formulé sur la base de 3 paradoxes du service public qui restent, me semble-t-il, encore d'actualité aujourd'hui. Je la cite, elle montre à quel point le service public, s'il est valorisé, est aussi très peu connu. Il faut sans doute s'interroger, dit-elle, sur ce paradoxe que l'activité qui fonde et légitime le métier et qui occupe souvent le tiers ou la moitié du temps de travail hebdomadaire des bibliothécaires, ne fasse pas l'objet d'une élucidation ou d'une réflexion collective. Elle capte bien là la rareté finalement des études qualitatives qui essayent d'identifier le travail d'interaction, le travail qualitatif d'interaction. D'autre part, dit-elle, le service public est de plus en plus improbable, finalement, en tous les cas difficile, puisque tout est fait pour que l'usager soit autonome. L'instauration du libre accès, dit-elle, a placé les bibliothécaires dans une position inconfortable, être au cœur d'un dispositif conçu pour se passer d'eux. Enfin, elle pose en préalable à l'analyse qu'elle mène sur les 4 terrains cette évidence qui est que bibliothécaire face au public, c'est deux systèmes de représentation en présence qui ne concordent pas toujours. En l'occurrence, pour un usager, selon qui il est, selon ses pratiques de bibliothèque, des pratiques culturelles, des pratiques finalement quotidiennes, il va arriver face au bibliothécaire avec tout un système de valeurs qui lui est propre. Et je la cite à nouveau, dit-elle, l'usager, selon le cas, s'attend à être accueilli comme dans un CDI, un vidéoclub, une bibliothèque universitaire, comme à la poste, au supermarché, et les étrangers comme dans leur pays d'origine. Alors sans se livrer forcément à une analyse aussi complète des systèmes de représentation qui se font face en quelque sorte dans une situation de service public, on peut vouloir souhaiter disposer quand même du meilleur des deux mondes, c'est-à-dire d'un côté disposer de données quantitatives parce qu'elles constituent des outils précieux d'aide à la décision, et puis on peut aussi vouloir ne pas renoncer à rendre compte de ce qui se passe dans un échange lors d'une interaction au service public, de mesurer quel rôle joue la reformulation, la connaissance de l'offre, les différents types d'accompagnement que proposent les bibliothécaires ou encore les différents registres aussi qui font qu'une réponse est donnée à un usager. Comme nous avions eu la chance à la BPI, quelqu'un en a fait la remarque de pouvoir testé pas mal de dispositifs, des dispositifs quantitatifs et des dispositifs qualitatifs. On souhaitait, dans la campagne 2015, pouvoir tester une approche mixte. Et c'est en cela que la méthode américaine RID nous a paru constituer un très bon compromis à travers cette notion de statistiques qualitatives qui se trouve au cœur de ce dispositif RID et qui n'est sans doute pas, qui est un petit peu hérétique pour les sociologues les plus orthodoxes, mais qui nous a paru tout à fait intéressante. Alors, quelques mots sur cette grille américaine RID, dont l'acronyme finalement pourrait se traduire en français par échelle d'évaluation des services de référence. Alors, cette échelle est née, se stabilise entre 2002 et 2003. Et elle naît dans le contexte du début des années 2000 dans les bibliothèques de recherche américaines qui font face à un constat relativement paradoxal. Très clairement, la sollicitation des services de référence baisse de façon assez importante quantitativement. Et parallèlement à cela, les demandes, même si elles sont moins fréquentes, sont de plus en plus difficiles à traiter. Difficiles ou complexes. Difficiles par leur sujet, par le traitement qu'elles demandent et aussi par le comportement des usagers. Pour les bibliothécaires regroupés au sein de l'ARL, il ne fait pas de doute que si le contexte numérique change, si le comportement des usagers change, les méthodes d'évaluation doivent elles aussi changer. C'est pour ça qu'ils se disent que les simples indicateurs quantitatifs ne suffisent plus et qu'il importe d'imaginer, de créer une méthode qualitative, voire une méthode qu'on pourrait qualifier d'holistique, en fait, puisqu'elle se donne pour objectif de capter toutes les occurrences de l'activité de référence susceptible de rendre compte des compétences, des connaissances, des techniques, des outils nécessaires à mobiliser lors d'une interaction avec le public. À l'issue de cette réflexion... Ah alors, je ne sais pas. Ça fonctionne ? Ah bon. Parce que je voulais vous montrer dans la croix en haut. Bon, je voulais vous montrer le site dédié à l'échelle RID qui s'appelle RID Scale. Il y a tout un site web. Alors, tu crois que je peux réessayer, Christophe ? Insérer une carte à puce ? Non. Bon, peut-être que quelqu'un descendra et tout à l'heure je pourrai vous signaler. Enfin, il est assez simple à trouver hein, sur le web, mais je vous aurai montré en version live les 6 niveaux que propose cette échelle RID. Alors l'idée, bien sûr, c'est de dire tout ne se vaut pas. Quand on compte 1 pour une interaction, c'est pas pareil de compter 1 au niveau 1 et de compter 1 au niveau 6. Donc c'est une échelle qui en cela se veut qualitative. Le dispositif prévoit que c'est le bibliothécaire en fait qui documente l'activité d'enseignement qu'il vient de faire avec l'usager. C'est lui-même qui situe entre 1 et 6 le niveau de renseignement qu'il vient de faire. Il y a évidemment un certain nombre d'explications, de critères qui permettent de passer d'un niveau à l'autre. C'est tout à fait construit. En 2014, une première bibliothèque française, c'est la bibliothèque de Sciences Po, et je crois que Cécile Twitou est là. Donc c'est à la bibliothèque de Sciences Po que pour la première fois en France est testée cette grille RID. Elle est d'abord traduite. Et elle est testée sur les 3 premiers niveaux de l'échelle RID dans un objectif bien particulier qui est celui d'identifier des besoins de formation pour les personnels en poste. Nous avons été rencontrer nos collègues de Sciences Po. Nous avons pu constater qu'il était tout à fait facile de mettre en ligne ce type de formulaire, de le lier à notre logiciel d'enquête, qu'on pouvait former et permettre à tous les collègues postés d'être autonomes par rapport à cette sorte de formulaire d'analyse de la pratique. Enfin, il nous a paru que toutes les conditions étaient réunies pour que nous puissions à notre tour nous lancer dans l'expérience RIDE. Alors évidemment, pour nous, la BPI, il était tout à fait possible d'utiliser ce formulaire RIDE, tout simplement comme Christophe l'a montré, parce que notre public est un public qui, pour 60%, est un public d'étudiants, et RIDE ayant été conçu par des bibliothèques d'études, on savait que du moins en partie, les interactions que nous avons avec ce public étudiant allaient pouvoir être retranscrites à travers le formulaire RIDE. Mais nous l'avons adapté, ce formulaire, pour pouvoir traiter les interactions avec tous nos autres publics. Deux principales adaptations ont été apportées au formulaire original. La première adaptation a consisté à choisir finalement le niveau d'échelle, d'effort, d'expertise, dit la doctrine américaine. Nous avons choisi quatre niveaux dans l'échelle américaine, les niveaux de 2 à 5. Nous avons transformé le niveau 1 pour le rendre plus opérationnel. D'autre part, nous avons modifié, c'est la seconde grande modification que nous avons apportée à l'échelle originale, nous avons rajouté en fait une modalité de description de l'interaction qui porte sur l'accompagnement de l'usager qui est en bibliothèque, comme vous le savez, tout à fait important à la BPI en particulier avec des modalités d'accompagnement pédagogique, social, physique et aussi concernant les usagers handicapés en raison de la mission aussi nationale qui est la nôtre. Ces différentes adaptations sont le fruit d'un travail collectif. Tous les coordonnateurs de bureaux d'information à la BPI ont travaillé avec nous de façon à identifier exactement ce qui se passe en service public, de façon à modéliser, on pourrait dire au mieux, ce qu'il se passe avec un usager. Au-delà des coordonnateurs, tous les collègues intéressés ont été amenés à participer lors de présentations, de discussions, et on a fait aussi, ce qui a été très utile, une période test en grandeur nature avant le lancement de l'enquête, ce qui nous a permis presque jusqu'au dernier moment de modifier cette grille, de la rendre la plus évidente possible pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Parce que vous voyez, on était assez nombreux à devoir utiliser cette grille. Nous avons donc travaillé en service public avec chacun sur son bureau d'information ses grilles disponibles pendant 9 jours, entre le 4 et le 13 novembre, ce qui correspond pour la BPI à 93 heures d'accueil des publics, pendant lesquelles nous avons enregistré un petit peu plus de 40 000 entrées. 145 personnes différentes étaient postées et nous avons enregistré à peu près plus de 6700 formulaires qui correspondent à 6700 interactions, c'est-à-dire rencontres entre public et usager. Ces 6739 formulaires remplis, autrement dit interactions, correspondent à plus de 19 000 interventions professionnelles. Je reviendrai à travers quelques exemples sur ce que nous avons entendu par intervention professionnelle, puisque c'est là où se situe proprement la dimension qualitative. Nous avons eu, peut-être grâce au travail collaboratif en amont que nous avions réalisé, non seulement un engagement très professionnel de nos collègues, mais aussi un enthousiasme pour la méthode, qui nous a valu de disposer finalement aujourd'hui d'une base de données d'enquête très riche, puisque un formulaire sur trois a été annoté. On avait prévu une zone de commentaires libres. Vous allez le voir à travers les exemples, ces commentaires libres ont été très largement utilisés et sont très riches. Ça a été une des grandes satisfactions que la copilote de cette étude, Kylaine Tuilard, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, du service de l'accueil du public, et moi-même, avons pu ressortir aussi en dehors de tout type de résultats. C'est la cohésion autour du service public qui s'est fait à travers ce dispositif. Alors, comme il est sans doute pour vous qui n'êtes pas habitué au volume important des données BPI, assez difficile finalement d'évaluer ces données quantitatives, je vous propose d'observer ce que donnent ces données sur une heure simplement d'accueil BPI, même si toutes les tranches horaires ne se valent pas, hein, comme vous vous en doutez. En moyenne, sur une heure d'accueil, il y a à peu près, on fait une approximation, 1430 personnes dans la bibliothèque et 19 bibliothécaires postés. Entre les deux, un peu plus de 200 interventions professionnelles qui peuvent être de nature différente, des distributions de tickets d'accès Internet, des réponses documentaires, des réponses de type services pratiques ou un certain nombre aussi d'accompagnement des usagers. Qu'est-ce que on doit entendre par accompagnement, réponse documentaire, intervention professionnelle? C'était tout l'enjeu pour nous d'utiliser cette méthode qualitative. Et c'est maintenant sur la base de l'analyse de quelques formulaires remplis par les collègues que je vais essayer de vous montrer les apports de la méthode américaine que nous avons expérimentée. Tout d'abord, on se rend compte que l'on peut disposer à travers les formulaires qui nous sont qui ont été enregistrés de moyens d'éprouver le rôle que joue la reformulation dans des situations d'interaction au service public. Vous avez ici en question de départ une question vraiment toute simple. Avez-vous un livre sur la ségrégation? Vous voyez que la réponse est trouvée élaborée de niveau 5, ce qui chez nous est un niveau élevé et a fait l'objet d'un accompagnement pédagogique puisque finalement il s'agissait d'un TPE. De la même manière, dans le formulaire suivant, au tout début, l'usager s'adresse au bibliothécaire pour lui demander finalement un équipement, un dispositif d'écoute pour travailler le TOEFL. Et finalement, la réponse du bibliothécaire lui permet d'utiliser des postes dédiés que nous avons dans l'espace auto-formation de la BPI, qui sont des postes qui sont faits pour faciliter l'apprentissage, notamment des langues, avec des cabines, une insonorisation, une possibilité de s'entraîner de façon, on l'espère, la plus satisfaisante possible. Donc on voit là encore que la reformulation permet d'améliorer le service rendu. De la même façon, évidemment, la connaissance de notre offre. Christophe l'a rappelé, à la BPI, il n'y a pas de prêt. On ne peut pas, les usagers ne peuvent pas partir avec les exemplaires physiques. En revanche, dans certains cas de figure, on peut proposer à l'usager d'utiliser à distance une plateforme de livres hein, comme Bibliovox et de trouver un exemplaire en ligne de l'ouvrage qui l'intéresse. Là aussi, c'est la connaissance de l'offre qui permet pas simplement de dire non à l'usager, mais de lui proposer d'utiliser un service auquel évidemment il ne peut pas avoir accès tout seul. On pourrait multiplier les exemples. Un dernier hein, concernant une recherche bibliographique, tout ce qui est plus classique en quelque sorte, mais le bibliothécaire connaissant bien son fond sait qu'un film existe, ce qui lui donne l'occasion d'installer l'usager là encore dans un espace dédié pour la consultation des vidéos à la BPI et qui constitue là aussi une expérience quand même de consultation de vidéos tout à fait confortable et de bonne qualité. Donc de façon générale, comme vous le voyez, chaque interaction Je rappelle qu'un formulaire correspond à une interaction cache en fait ce que nous appelons des interventions professionnelles. Ici, vous voyez, il y en a au moins 6 dans ce formulaire. Il y a une réponse documentaire de niveau 5. Et puis, il y a aussi 5 services pratiques. Et puis aussi, un accompagnement social. C'est ce que nous appelons, nous, nos indicateurs qualitatifs. C'est le nombre d'interventions différentes que nous mettons à disposition d'un usager lors d'une interaction. Exemple similaire dans ce formulaire, hein, cette fois-ci il s'agissait pour un lecteur nouvellement arrivé en France qui souhaite présenter le bac L en candidat libre. Il s'agissait pour le bibliothécaire de penser à lui indiquer les ateliers FLE. Alors ça, vous voyez qu'on capte là de façon très pointilliste, holistique, comme je le disais, tout ce qu'on fait, ça peut paraître un petit peu comme un petit peu vraiment, voilà, pointilliste et peut-être trop détaillé, mais c'est le prix à payer pour identifier au moins une fois dans le cadre d'une expérience la qualité, la diversité, la qualité, la pertinence du service public qui est rendu. L'accompagnement pédagogique, on le sait, en bibliothèque est extrêmement important. L'accompagnement social aussi. Dans le formulaire qui est à droite, vous avez l'expérience qui est décrite d'un téléphone cassé à la BPI, alors expérience malheureuse, mais vraisemblablement que le bibliothécaire, parce qu'il a fait montre d'empathie, a pu peut-être rétablir, faire descendre la pression, rétablir la confiance, et finalement l'usager a pu être dépanné dans la recherche d'un annuaire des intermittents du spectacle. Ici, une réponse simple et rapide de niveau 2. En gros, et je terminerai sur ces aspects, hein, bien sûr, ce qui compte dans une interaction, c'est la coopération des deux acteurs, c'est la personnalité du bibliothécaire et la personnalité de l'usager. Ici, on constate que sur la base d'une simple demande de fourniture de bureau, un usager s'adresse au bibliothécaire pour demander un stylo, ben finalement c'est l'occasion pour le bibliothécaire. Alors attention, hein, ce sont des stratégies d'harponnage certes, mais l'usager est consentant. Tout ça se passe évidemment en tout consentement mutuel. Le bibliothécaire en profite pour proposer une réponse documentaire. Alors à une question, ben, que peut-être l'usager n'avait pas osé poser à ce moment-là pour lui. En tout cas, le bibliothécaire peut lui présenter Gallica et les microfilms de presse. Alors inversement, donc il y a des usagers qui ne demandent rien, il y a des usagers qui demandent tout. Hein, tout sur tout, demande très précise, au maximum, toutes les possibilités. Il y en a aussi, comme le cas de ce formulaire ici qui se trouve à gauche, des usagers qui veulent travailler seuls. Donc dans ce cas-là, on adapte sa réponse documentaire et on se met en mode formation pour permettre de s'adapter à l'usager. Et puis il y a des cas où finalement la conversation est de plus en plus nourrie. C'est le cas de ce formulaire complètement à droite, où le bibliothécaire indique que... Alors, on avait une règle, hein, il fallait absolument que chaque interaction, quelle que soit sa durée et la richesse des interactions, ne fasse l'objet que d'un seul formulaire. Un usager, un formulaire, une interaction. Donc là, le bibliothécaire précise bien qu'il s'est plié à cette règle, mais il y a vraiment plusieurs demandes avec l'effet rebond qu'on connaît tous en service public. Donc là encore, une interaction et 6, 7, 8 peut-être interventions professionnelles différentes. À travers les différents exemples de formulaires et les données chiffrées que j'ai pu vous présenter, je crois qu'on peut réaliser que l'on peut disposer avec la méthode RID en effet d'indicateurs quantitatifs, notamment à travers le nombre d'interactions qui sont menées en service public. On peut aussi disposer de données qualitatives à travers ce que nous avons appelé donc ces interventions professionnelles, et aussi à travers, bien sûr, les commentaires libres dont j'ai utilisé dans le cadre de cette présentation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les seconds, les indicateurs qualitatifs, permettent d'éclairer les premiers, les indicateurs quantitatifs. Et c'est tout à fait important, hein. Je rappelle là, il y a deux grands Jean-Philippe, spécialistes des services de référence, hein, Accard et Lamy. Et je crois que c'est Jean-Philippe Lamy qui disait dans son livre sur les services de référence qu'il faut se méfier de tous les indicateurs quantitatifs qui peuvent être élevés. Ils ne sont pas toujours, ces données élevées ne sont pas toujours de bons indicateurs, justement. Ils peuvent être au contraire le signe soit d'une signalétique défaillante, ou encore de services confus, ou peu visibles, peu compréhensibles. Donc il est tout à fait important, et c'est une règle pour toutes les données chiffrées, de savoir ce que l'on compte, pour pouvoir les contextualiser et les interpréter. Nous avons essayé, dans le cadre de l'utilisation de cette méthode READ, de rendre interprétables, utilisables, les données quantitatives que nous proposions en réponse à la demande de la direction. Par ailleurs, on dispose aujourd'hui de données qualitatives importantes. À travers les formulaires, comme vous l'avez vu, on a finalement des exemples de cas pratiques en service public. Et ce qui a été très riche pour les collègues qui ont participé à l'expérience, c'est justement de se dire on pourrait échanger nos bonnes pratiques sur la base de ce type de relevé. Et c'est un résultat tout à fait significatif, et on l'espère opérationnel, qui va pouvoir être retenu suite à l'expérimentation READ. Alors, pour autant, est-ce que cette méthode est vraiment le meilleur des deux mondes? Alors, sans doute pas quand même. Un certain nombre de limites à cette méthode. D'abord, il faut le dire, les services de référence qui sont analysés par READ ne constituent pas tout l'ensemble des médiations qu'une bibliothèque peut proposer. READ ne permet pas de rendre compte des ateliers qu'on propose souvent en bibliothèque, à la BPI comme partout ailleurs sans doute, ateliers informatiques, ateliers de conversation, conférences, débats, visites, expositions, toutes ces formes-là de rencontres avec les publics, évidemment, READ ne rend pas compte. READ ne rend compte que de cette toute petite partie visible de ce qui se passe dans ce lieu que sont les bureaux d'information. Pour poursuivre sur la réponse qu'a posée Olivier Roumieux sur les services distants, nous n'avons pas utilisé le formulaire READ pour analyser les réponses à distance. En revanche, c'est tout à fait possible. Beaucoup des bibliothèques américaines qui utilisent READ l'appliquent pour les deux services, en présentiel et à distance. Nous ne l'avions pas fait, déjà parce que ça ne nous était c'était pas vraiment dans la commande qui nous a été adressée, et puis parce que nous avions aussi réalisé une petite étude de public dont tu pourras, Olivier, trouver sur notre rubrique études site pro, petite étude sur les publics de ce qui était avant Bibliosésame et de leur motivation pour avoir accès à ce service. Par ailleurs, cette enquête READ qui porte uniquement sur 9 jours ne capte pas tous les usages, bien sûr, qui peuvent être réalisés en autonomie à la bibliothèque, et l'autonomie pouvant être le résultat tout simplement d'un certain nombre de médiations qui ont été faites précédemment. Christophe l'a dit, la BPI est un lieu qui est assez fréquenté, de façon régulière en tout cas, par pas mal de publics qui viennent. Vont-ils tous les jours s'adresser aux bibliothécaires? Pas forcément. Il y a un capital qui se fait vraisemblablement. En tout cas, ce qui est sûr, hein, c'est que Reed ne peut pas mesurer sur la durée cet impact que peut avoir une interaction d'un jour où l'on passe peut-être un quart d'heure, une demi-heure avec un usager. Il lui montre un certain nombre de choses sur un certain nombre d'autres visites, hein, pendant lesquelles il va faire plus preuve d'autonomie. Cette autonomie étant voulue, mais quelquefois étant au contraire subie. Je voudrais pour terminer rappeler quelques propos de Jean-François Barbier-Bouvet, toujours extrait de cet ouvrage ancien, mais toujours d'actualité, Publics à l'œuvre. Ce qui est intéressant, c'est que Jean-François Barbier-Bouvet rappelle bien que si la médiation à la BPI est vraiment facultative, parce qu'il n'y a même pas de prêt, c'est aussi que l'on légitime en quelque sorte le non-recours aux bibliothécaires. Ce non-recours aux bibliothécaires, puisque tout est fait pour qu'il se passe de lui, hein, ne doit pas être compris, dit-il, comme un désaveu ou un échec de l'institution, puisque la non-demande, dit-il, suit aussi ses propres logiques. J'en ai identifié quelques-unes précédemment, il y en a d'autres. La médiation n'est pas toujours ressentie, dit-il, comme un service normalement rendu par les professionnels. Je ne sais pas si c'est le cas dans vos bibliothèques, mais à la BPI, bien souvent, on voit arriver un petit peu sur la pointe des pieds ou en démarche de crabe un usager qui vient vers nous en disant « Excusez-moi de vous déranger ». Il y a vraiment une difficulté pour s'approprier le dispositif bureau, le dispositif renseignement, le dispositif bibliothèque. On ne sait pas trop. Là, il y aurait aussi toute une étude à renouveler de ce point de vue-là. Et enfin, pour d'autres usagers, s'adresser à un bibliothécaire au service public, c'est vraisemblablement presque impossible, puisque ce serait avouer, dit encore Barbier-Bouvet, une sorte d'impuissance à pouvoir répondre par soi-même. Donc autant de situations, de rapports de force qui font que tous les usagers, en effet, ne sont pas prêts à se saisir de l'opportunité qui est proposée par les bibliothécaires mise à leur disposition. Voilà un petit peu ce que je pouvais proposer aujourd'hui de rendre compte auprès de vous de cette expérimentation Reed. Je vous remercie de votre attention et je peux répondre à vos questions.
Oui, merci beaucoup Muriel pour cette étude très, très riche, beaucoup de pistes déjà. Des questions, des observations?
Moi, j'avais deux questions. C'était quelle avait été l'appropriation par les personnels? Est-ce que ça avait été pas trop compliqué? Parce que parfois, un dispositif comme ça, c'est... ça peut être accueilli comme une charge supplémentaire, quelque chose de rébarbatif. Et donc là, c'est 9 jours, c'est ponctuel. Est-ce que dans certains cas, certaines bibliothèques américaines l'ont intégré de façon permanente? Et peut-être troisième question, je ne sais pas si c'est trop. Est-ce qu'il y a eu des surprises? Est-ce que la direction en a fait un retour, je dirais, au personnel? Est-ce qu'il y a eu des choses un peu inattendues qui sont sorties de ces 9 jours?
Alors, en effet, tout type de dispositif de cette nature est accueilli au départ avec beaucoup de réserves. Déjà parce qu'en effet, le service public est alourdi par la nécessité, après chaque interaction, de faire cette description. D'autre part, parce que c'est jamais agréable quand même de rendre compte de ce qu'on fait, même si évidemment tous les formulaires étaient anonymes, pas de possibilité, on avait joué sur les tranches horaires pour que ce soit pas du tout, que ça corresponde pas du tout aux tranches horaires des personnels postés, pour qu'on ait pas du tout la possibilité de savoir qui travaillait. Donc oui, des appréhensions initiales. et qui se sont complètement dissipées au fur et à mesure qu'on est rentré dans le travail concret, parce qu'en fait on a finalement transformé ce qui était une démarche d'évaluation en démarche d'analyse de la pratique. Sans s'en rendre compte, on s'en est rendu compte après finalement, et je réponds un peu à la troisième question, c'est la grosse surprise de cette enquête, c'est à quel point, alors on a des collègues de l'ABP qui sont là, ils pourront peut-être aussi témoigner ou nuancer, je ne voudrais pas répondre pour eux, même si moi aussi j'ai rempli pas mal de formulaires RIDE. En transformant finalement un outil d'évaluation en outil de travail, en fait, c'est très instructif de décrire sa pratique. On se rend compte de tout ce qu'on fait. On fait plein de choses dont on ne se doutait pas. C'est extrêmement valorisant. C'était aussi des commentaires qui étaient cités dans les articles scientifiques de Bella Gerlich, qui est la grande prêtresse de RIDE en Amérique du Nord. Il y a un gros article qui est accessible sur RIDE Scale avec un compte-rendu d'expérience de 14 bibliothèques universitaires américaines. Et ce qui revient tout le temps, c'est l'intérêt de s'arrêter sur sa pratique, pour pouvoir l'échanger, pour pouvoir l'améliorer, pour pouvoir juste la connaître, l'apprécier, ce retour est essentiel, et je crois et a beaucoup contribué non seulement à l'engagement très fort que nous avons reçu de la part de nos collègues, mais aussi à l'intérêt, l'enthousiasme. Les gens voulaient que ça s'arrête plus, hein. On avait des gens qui étaient très très déçus que les choses s'arrêtent. Bon, il faut dire aussi que ma collègue Guylaine Trullard et moi-même, on avait quand même beaucoup travaillé le terrain. On a été présents tous les jours jusqu'à 22h parce que nous aussi, ça nous intéressait de voir si on pouvait décrire toutes les situations. Donc en fait, on discutait, on était aussi très très présents. Ce que les professionnels, nos collègues ont dit quand on a fait les premières séances de restitution, c'est à quel point ils s'étaient retrouvés autour du service public et que ça faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé. Le service public, c'est quelquefois une corvée, c'est quelquefois fatigant et difficile. Et là, tout à coup, c'était une occasion pour repenser autrement ce qu'on y fait, pouvoir échanger aussi des anecdotes sur les publics. Enfin voilà, tout ce que l'on fait comme ça un petit peu à l'arraché dans un couloir, tout à coup, tout ça prenait sens. En ce qui concerne les modalités finalement d'application de la méthode, ponctuelle, permanent. D'abord, en effet, les bibliothèques universitaires américaines, enfin pour ce que l'on a pu lire, des comptes rendus, il y en a quand même pas mal, procèdent par prélèvement régulier. En fonction des grandes saisonnalités de leur activité, on peut aller jusqu'à 3 ou 4 relevés par an. Alors, je n'ai pas vu de cas, pour répondre à ta première question, de prélèvements en continu. Peut-être que ça existe, mais je ne les ai pas vus mentionnés dans les articles. J'ai plutôt vu des prélèvements à des moments différents et significatifs de l'activité de la bibliothèque. J'ai vu aussi, mais c'était, je ne sais pas si peut-être que Cécile, tu voudras compléter. Moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que la durée des prélèvements, alors était plus importante que chez nous, elle était de l'ordre de 3 semaines. Mais finalement, c'est vraiment long et ce n'est pas forcément la peine. Ce qu'ils avaient l'air de préconiser, c'est aussi sur le site RIDE Scale, c'est privilégier des prélèvements plus souvent, mais pas forcément plus longs, parce qu'une fois qu'on est dans une sorte de type d'activité dans la bibliothèque, il y a une certaine redondance qui se crée. Voilà, j'espère avoir répondu aux questions.
Oui, j'ai une question qui... Vous avez en partie répondu à des questions que je voulais poser, donc merci. Et en complément, combien de temps ça vous a pris pour adapter donc, cette grille RIDE à l'expérience de la BPI ? Et puis, effectivement, donc, après cette expérience que vous avez menée, mais j'en déduis ça de la réponse que vous venez de donner, je suppose que vous allez continuer à faire donc, ces prélèvements de loin en loin, ou est-ce que pour l'instant ça s'arrête là ?
Merci. deux questions autour du temps, finalement. Alors, le temps de préparation, d'adaptation, nous avons eu la chance, je crois, d'avoir du temps, puisque la seule contrainte, enfin, il y en avait d'autres, hein, mais je vais en retenir qu'une. La seule contrainte qui nous était donnée, c'était une période qui était la quinzaine du mois de novembre, qui est à la BPI traditionnellement réservée pour les enquêtes de fréquentation, en raison d'une densité importante de fréquentation d'une part et d'une bonne représentativité de la diversité des publics, ce qui n'est pas le cas à d'autres moments de l'année. Donc il fallait que nous soyons prêts pour novembre, en même temps que la semaine thèse des consultations et en même temps que l'enquête de fréquentation. Donc nous avons pu prendre le temps, puisqu'en fait on a obtenu l'aval de la direction sur l'idée d'avoir une méthode mixte, hein, qualitative et quantitative, en avril. Je dirais que d'avril à juin, on a commencé les groupes de travail. Ce qui est très important, c'est prendre le temps de la maturation, que chacun, avec l'activité qu'il a et le type d'investissement qu'il a en service public, puisse s'approprier cette nouvelle façon de faire. L'adaptation elle-même, elle a été, je dirais, lente au début, c'est-à-dire que sortir d'une grille américaine qui existe, qui a fait ses preuves pour adapter à la BPI, c'est un certain culot déjà, parce qu'on va faire autrement que ce que les autres font. On a quand même changé pas mal de choses. Et puis, c'est un risque. Est-ce que ça va marcher? Donc, je dirais que c'est le début qui a été le plus difficile, se dire, bon, bah, allez, on casse ce qu'ils ont fait, parce que nous, on n'a pas que des publics étudiants. Il faut qu'on rende compte d'autres choses. Il faut qu'on s'y prenne différemment. Donc, voilà, le temps d'oser. Après, une fois qu'on avait cassé les murs, hein, après, le reste, finalement, c'est allé assez vite. Et plus on a été de collègues à travailler sur la grille, plus ça a été efficace. Je dirais que c'est sur les 15 derniers jours, puisqu'on est encore passé dans les bureaux d'information une semaine avant le début, et on a changé jusqu'au dernier moment des choses, des formulations, des ordres, pour que ce soit le plus évident, pour que ce soit un outil de travail. Donc ça a été très vite pour les finitions, et je dirais qu'heureusement, ce ne sera pas toujours le cas, mais qu'on a eu du temps pour une fois s'approprier cette méthode et de casser un petit peu le modèle américain. Alors c'est tout à fait exceptionnel, ce que je vous dis malheureusement, ce sera sans doute pas représentatif, mais Cécile, peut-être que tu peux, je ne sais pas où t'es Cécile, voilà, peut-être que tu pourras compléter pour Sciences Po la question de l'adaptation. En ce qui concerne le calendrier, il est encore à définir. On peut dire simplement que jusqu'à présent, la direction a souhaité disposer, en ce qui concerne les semaines thèse de consultation, de relevés annuels. C'est tous les 3 ans pour l'enquête de fréquentation, pour des raisons qu'on comprend. À la fois le dispositif est lourd, hein, bien sûr, et puis bon, la composition des publics évidemment ne change pas aussi fréquemment que ça. Pour ce qui concerne RIDE, on va voir, le calendrier est ouvert, mais ce peut être tous les ans ou tous les 3 ans, je pense en tout cas qu'on se calera sur un dispositif existant.
Oui, donc pour compléter, et l'expérience de Sciences Po est relativement différente. Puisque ces semaines thèse de l'accueil, on les a faites en complément d'une réflexion qu'a initiée ma collègue Anita Beldiman-Moore sur le sens et le contenu du service public, avec une réflexion sur le postage en salle, puisque la bibliothèque de Sciences Po, c'est 2 bâtiments, 10 plateaux de lecture et un grand nombre différents de bureaux, de guichets, etc. Donc on a exploité ces résultats aussi pour avoir une typologie des guichets. Quel type d'interaction, à quel endroit et comment, enfin, on a peut-être une quinzaine de bureaux différents, comment mieux qualifier donc ces différents bureaux et mieux poster aussi des collègues en fonction de ce qu'ils souhaitaient faire et des compétences nécessaires dans l'interaction avec nos étudiants. Et donc, on vient de renouveler l'expérience. Donc, on l'a fait une semaine l'année dernière, en 2014, en février. Et là, on l'a fait un mois. On vient de terminer. Effectivement, un mois ou une semaine, il semblerait qu'on est en cours d'analyse. Hein, les résultats sont sensiblement identiques. Mm-hmm. C'est pas la prolonger l'expérience ne donne pas de résultats vraiment différents. Voilà. Et donc, nous, c'est vraiment une cartographie, en fait, des interactions par poste. Et c'est aussi intéressant. Et donc, dans la grille, au départ, on avait une localisation de l'interaction qui était discriminante après dans l'analyse.
Oui, bien sûr.
Oui, je vois bien l'intérêt de ce type de démarche à titre individuel pour analyser la pratique, etc. Mais je ne comprends pas très bien comment on peut exploiter ces résultats. J'ai l'impression que quelque chose de très atomisé, finalement, de très individuel. Qu'est-ce que vous pouvez en tirer pour votre pratique, pour la formation de vos collègues, pour identifier des éventuels dysfonctionnements? Comment est-ce que vous y prenez?
Alors, c'est vrai que je n'ai pas donné d'exemple d'analyse. Bon, je vais peut-être partir du formulaire lui-même, comme ça on pourra voir ce qu'on peut en tirer. En ce qui concerne la liste codée de services pratiques, nous avons pu remarquer que le nombre de codages de l'orientation, des questions d'orientation dans la bibliothèque était particulièrement élevé et différent selon les bureaux d'information. Je ne sais pas si vous pouvez voir de là où vous êtes. Hein, on peut croiser, on travaille avec un logiciel d'analyse enquête, on peut croiser la nature des questions pratiques, par exemple les plus fréquentes, rappel au règlement, par exemple, qu'on croise avec le type de bureau, orientation spatiale, qu'on croise avec le type de bureau. Ça nous permet de pouvoir prendre les décisions qui s'imposent, le cas échéant, en fonction de point d'observation que l'on peut comme ça croiser, comme le disait Cécile. On peut, en ce qui concerne le niveau des réponses documentaires, différencier sur 20 réponses données, c'est quand même pas la même chose d'en avoir 4 du niveau 5 et 15 du niveau 2 que le contraire selon les bureaux. Ça peut nous donner là aussi des indications sur la manière d'organiser par exemple le dispatchage des types de compétences ou des types de formations en service public, par exemple. Je ne sais pas si ça répond au type de questions.
Mais dans la mesure en fait où c'est le bibliothécaire qui s'auto-évalue, je ne vois pas très bien comment on peut avoir une vraie appréciation finalement du niveau de la réponse, de la qualité.
Du niveau de la réponse. Là je comprends mieux le sens.
C'est une auto-évaluation.
Votre...
Oui. Je ne vois pas très bien en quoi ce formulaire a réellement une valeur objective et peut être exploité.
Oui, vous avez raison d'insister sur ce point que personne ne veut aborder. Dans la doctrine américaine, je vais l'appeler comme ça, le corpus d'études qui est disponible sur RID, ce qui est mis en valeur, c'est la subjectivité, qui n'est pas du tout contraire à un caractère scientifique. Ce serait un débat épistémologique que nous n'allons pas entreprendre dans les médias, mais je tiens quand même à le souligner. Qu'est-ce qui est subjectif et qu'est-ce qui n'est pas subjectif dans la méthode? Ce qui est subjectif, c'est la description de ce que je fais, toujours. toute description, qu'elle se fasse dans le cadre d'un entretien, d'une déclaration, d'un journal intime, toute description qui est faite est subjective. Elle n'est pas délirante, enfin, sauf cas aigu, mais en général, elle n'est pas délirante. La plupart du temps, on constate même une sous-évaluation. Je suis, comme je vous le disais, passée dans tous les bureaux et plusieurs fois. C'est incroyable ce que les gens se sous-évaluent. Vous ne pouvez pas savoir. Ça, c'est la première chose. Ce qui est subjectif, c'est le rapport à soi dans son activité de description. Ce qui n'est pas du tout subjectif, c'est les critères à partir desquels on avait défini le passage d'un niveau à l'autre. C'est pareil dans l'échelle américaine. On ne peut pas... Alors évidemment, vous faites ce que vous voulez entre le formulaire en ligne et vous, mais franchement, ça n'a pas été le cas, sauf marginal, que nous n'avons pas vu. Nous avons des critères pour passer d'un niveau à l'autre. Premier critère. Est-ce que j'ai dû reformuler la question ou pas pour pouvoir y répondre ? Si un usager vient en demandant le livre de Cibois sur l'analyse statistique, je ne vais quand même pas lui faire répéter et dire « Est-ce que vous êtes sûr ? Parce que franchement, j'en connais un autre beaucoup mieux. » Non, ce n'est pas du tout dans l'éthique du bibliothécaire. La question est posée, j'y réponds. C'est du niveau 2, ce qu'on appelle simple et rapide, sans reformulation. En revanche, j'ai quelqu'un qui arrive en disant « Voilà, je fais une recherche sur les finances publiques. Je suis en droit éco, là je vais être obligée de le faire reformuler parce que les finances publiques à la BPI, ça doit être au moins 4 bons rayons double face, si je ne m'abuse. Donc pour pouvoir lui donner les chances de trouver quelque chose, je vais être obligée de lui poser des questions. » Et c'est là où le travail commence et le travail aussi de l'usager. On a des usagers qui ne veulent pas de l'entretien de référence. On leur dit, bon, ben, qu'est-ce que vous cherchez exactement sur la finance publique ? Je voudrais l'arranger des finances publiques. Enfin, j'exagère le ton, mais ça pourrait être ça. Donc, on a des gens avec lesquels la coopération ne va pas pouvoir se faire. On a des gens qui vont découvrir qu'il faut se poser des questions. Ils vont découvrir finalement eux-mêmes que ce n'était pas vraiment des finances publiques, etc. Donc là, je suis dans la reformulation. Donc, on voit déjà qu'entre le niveau 2 et niveau 3, 4, 5, le bibliothécaire sait déjà dans quel type de réponse il se situe. Au niveau 3, on fait la recherche pour l'usager, en gros. Au niveau 4, on est devant un usager, soit qui explicite, soit qui manifeste de façon non verbale son désir de faire la recherche lui-même. Donc là, on lui montre un petit peu comment il peut se débrouiller et puis on le laisse voguer. Au niveau 5, on a une relation avec l'usager qui est très, très nourrie. On travaille ensemble. Voilà. Alors, on l'a testé avant de faire ce relevé. On a testé pendant 15 jours le formulaire avec côte à côte et on passait beaucoup, beaucoup de temps pour aider les bibliothécaires qui aurait eu du mal à choisir le bon niveau. Voilà comment on a procédé et finalement, comment, nous semble-t-il, on peut concilier le subjectif avec le descriptif qui nous intéresse, qu'on ne peut pas appeler objectif. Vous voyez, voilà. Je ne sais pas si ça vous convainc plus de notre méthode. Enfin, ce n'est pas le but. Elle est critiquable à bien des égards.
On a peut-être le temps d'une dernière, toute dernière question. Non. Alors, dans ce cas, il ne me reste qu'à vous souhaiter à tous un bon déjeuner et on se retrouve à 14h pour la suite de la journée. Merci.